Vatican News, le journal, il est 8h30.
Ne pas se laisser angoisser par l'intendance du quotidien. Réflexion du pape François hier lors de l'Angélus. Il est revenu sur la visite de Jésus dans la maison de Marthe et Marie. On y revient juste après les titres. Une victoire record en Ukraine, celle du parti de Volodymyr Zelensky aux élections législatives. Un score aussi élevé, c'est du jamais vu depuis l'indépendance du pays en 1991. Élection également au Japon ce week-end, les sénatoriales. Le parti de Shinzo Abe garde la main, mais nous l'entendrons, la volonté du Premier ministre de modifier la constitution du pays pourrait être compromise. La RDC en proie au virus Ebola, plus de 1500 morts ces 10 derniers mois. L'État annonce prendre les commandes de la lutte contre l'épidémie. Et puis dans notre dossier, nous reviendrons sur le drame des flammes de Notre-Dame de Paris, 3 mois après l'incendie. Nous entendrons l'interview du recteur de la cathédrale.
Le journal Marine Henriot.
Bonjour à tous. C'est sous un splendide ciel bleu romain que le pape François a récité hier sa prière de l'Angélus devant des milliers de pèlerins. Il est revenu sur l'épisode évangélique du jour, tiré du 10e chapitre de Saint Luc, qui raconte la visite de Jésus à Marthe et Marie. Cet extrait montre que le Seigneur n'attend pas de nous un zèle volontariste, mais plutôt une sereine disponibilité à sa parole. Le compte-rendu de Cyprien Viette.
Le Seigneur nous surprend toujours. Quand nous l'écoutons vraiment, les nuages disparaissent, les doutes cèdent la place à la vérité, les peurs à la sérénité, les différentes situations de la vie trouvent leur juste place, a expliqué le pape François. Dans cette scène de Marie de Béthanie au pied de Jésus, Saint Luc montre l'attitude priante du croyant qui sait être en présence du Maître pour l'écouter et pour rentrer en communion avec lui, a insisté François. Il s'agit de faire une pause dans la journée, de se rassembler en silence pour faire place au Seigneur qui passe et de trouver le courage de rester un peu à l'écart avec lui pour ensuite revenir avec plus de sérénité et d'efficacité aux choses du quotidien.
Jésus semble répéter à chacun de nous:
ne te laisse pas submerger par les choses à faire, mais écoute d'abord la voix du Seigneur pour bien accomplir les tâches que la vie te donne, semble nous dire Jésus. Marthe, elle, est absorbée et stressée par les nombreux services. Jésus le remarque et lui dit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Par ces paroles, il n'entend certainement pas condamner l'attitude de service, mais plutôt l'anxiété avec laquelle elle est parfois vécue, a précisé le pape. François a donc conclu en expliquant que Marthe et Marie, à travers ce récit, nous invitent à trouver un équilibre entre la contemplation et l'action.
Cyprien Viette. Et après la prière de l'Angélus, le Saint-Père est revenu sur l'exploit de la mission Apollo il y a tout juste 50 ans. L'homme mettait pour la première fois le pied sur la Lune. Le souvenir de ce grand pas pour l'humanité doit susciter des désirs de progresser ensemble vers des objectifs encore plus grands, a expliqué François. Des objectifs comme plus de dignité pour les faibles, plus de justice entre les peuples et plus d'avenir pour notre maison commune. Des informations qui sont évidemment à retrouver sur Vatican News. C'était sa première épreuve du feu et Volodymyr Zelensky semble maîtriser les flammes. 2 mois après son élection triomphale à la présidence ukrainienne, le parti du président, nommé Serviteur du Peuple, du nom de la série télévisée qui l'a rendu célèbre, a enregistré un score record aux élections législatives anticipées. Il frôle même la majorité absolue. À Kiev, Stéphane Sion.
Le parti du jeune président obtient 44% à l'issue des législatives que le président a convoquées afin de pouvoir disposer d'une majorité au Parlement, condition sine qua non pour la nomination d'un gouvernement. Le parti de Viktor Medvedchuk, l'agent de Moscou en Ukraine, arrive second avec 11%, mais c'est un succès en trompe-l'œil car le déclin sociologique et historique des pro-russes se poursuit irrémédiablement après 5 ans de guerre dans le Donbass. Les vieux routiers de la politique sauvent les meubles, les partis de Petro Poroshenko et Yulia Tymoshenko arrivent respectivement 3e et 4e, mais alors que Volodymyr Zelensky devra sans doute trouver un partenaire de coalition pour gouverner, les regards se tournent vers le parti Golos, un mot qui veut dire « la voix » en ukrainien, créé il y a seulement 2 mois par la légende du rock ukrainien Sviatoslav Vakarchuk. Ce parti pro-européen, centriste, libéral et social, approche des 7%. Il incarne le courant idéologique qui avait sous-tendu la révolution de Maïdan en 2014. Selon toute vraisemblance, Zelensky et Vakarchuk, deux stars du show business, jeunes quadragénaires, pourraient s'allier pour gouverner. Kiev, Stéphane Siohan pour Vatican News.
7 mois après l'arrêt du navire humanitaire Aquarius, SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières reprennent la mer pour secourir les migrants naufragés. L'Ocean Viking, c'est le nom de ce nouveau navire battant pavillon norvégien, est en ce moment en route vers la Méditerranée. La Méditerranée qui est devenue la route migratoire maritime la plus meurtrière au monde. Au moins 426 personnes sont mortes en tentant la traversée depuis le début de l'année. Un navire humanitaire qui prend la route alors que de nombreux pays européens ferment leurs ports. Hier, le ministre de l'Intérieur italien a pris la plume pour écrire à son homologue français « Les choix faits à Paris et Berlin, ça suffit », écrit Matteo Salvini. L'Italie n'est plus disposée à accepter tous les immigrants qui arrivent en Europe, explique le ministre d'extrême droite. Réunis la semaine dernière à Helsinki, les ministres européens n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un mécanisme de solidarité entre les différents pays pour accueillir les migrants naufragés. Un homme battu à mort en France, un universitaire guinéen mortellement agressé vendredi soir à Rouen, peu avant la finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Une enquête est ouverte. Direction la République démocratique du Congo. Le chef de l'État prend les commandes de la riposte anti-Ebola. La lutte contre l'épidémie se fera désormais sous la supervision de la présidence. Une nouvelle posture après la déclaration de l'épidémie par l'OMS comme une urgence sanitaire de portée mondiale. À Kinshasa, Pascal Moulégua.
Jusque-là, Félix Tshisekedi n'avait pas ses deux pieds dans la riposte contre Ebola, mais l'urgence sanitaire décrétée par l'OMS a changé sa posture. Le chef de l'État prend désormais les commandes des opérations contre l'épidémie qui frappe les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La riposte était dirigée par les ministres de la Santé. Faute de publication du gouvernement depuis la prise de pouvoir par Tshisekedi, le titulaire de ce portefeuille expédie encore les affaires courantes. Conséquence, en 2 mois seulement, le nombre des victimes est passé de 900 à 1700. Le président sera assisté par le professeur Jean-Jacques Mouyembe, l'un des chercheurs qui avait découvert le virus Ebola en 1976. Tshisekedi lui donne alors les pleins pouvoirs pour des mesures innovantes et urgentes, l'objectif étant d'endiguer l'épidémie et renforcer la prévention. La présidence a également pris acte de la décision de l'OMS de faire de l'épidémie une urgence sanitaire de portée internationale, mais une particularité, cette urgence ne donne pas lieu à des restrictions aux voyages et au commerce, et elle devait en revanche donner lieu à d'importantes levées de fonds. Pascal Mouligua, Kinshasa, Vatican News.
Au Nigeria, le morbide modus operandi se répète. Des hommes armés montés sur des motos ont mené des raids dans des villages du nord-ouest. Ils ont ouvert le feu sur les villageois, incendié marchés et récoltes. 37 personnes sont mortes. Lendemain d'élection au Japon, et c'est le parti du Premier ministre Shinzo Abe qui remporte les sénatoriales. La coalition au pouvoir obtient 71 des 124 sièges en jeu lors de ce scrutin. Il s'agit d'une victoire solide, mais pas absolue. Les précisions de Marie Duhamel.
Au pouvoir depuis décembre 2012, Shinzo Abe offre une nouvelle victoire au parti libéral dont il est le président. Il faut dire que le Premier ministre n'a pas vraiment d'opposition, celle-ci est éclatée dans un piètre état. Bref, il devrait se maintenir au pouvoir jusqu'en 2021. En novembre, Shinzo Abe deviendra d'ailleurs le chef de gouvernement ayant la plus grande longévité dans le pays. Et pourtant, cette victoire n'est pas un franc succès. D'abord parce que s'il pourra mettre en œuvre plusieurs de ses politiques, une hausse de la TVA à l'automne, un accès gratuit à la crèche, à la maternelle sur fond de population vieillissante, Shinzo Abe se voit empêché de réarmer son pays, un souhait qui lui est pourtant cher. Il manque 4 sièges à la coalition pour obtenir une majorité des 2/3 permettant de modifier la constitution pacifiste du pays. Shinzo Abe a répété hier qu'il relancera le débat. Il tentera probablement d'inciter d'autres législateurs de l'opposition à lui donner raison. Ce ne sera cependant pas facile avec un scrutin annoncé à la Chambre basse d'ici 2021. Ensuite, cette victoire est en demi-teinte parce que le taux de participation est de 48%, sous la barre des 50%, une première depuis 1995, signe de la lassitude de nombreux électeurs au Japon.
Marie Duhamel, début de semaine amère à Hong Kong. Hier, c'était une nouvelle journée de manifestation contre le pouvoir, mais une manifestation émaillée de violence. Des gangs d'hommes armés de bâtons, de tringles métalliques, mais également de battes de baseball, se sont immiscés dans le mouvement et ont frappé manifestants et journalistes. 45 personnes ont été blessées. C'était déjà le 15 avril dernier, la cathédrale Notre-Dame de Paris était ravagée par un terrible incendie. Un spectacle presque irréel qui s'était déroulé sous les yeux horrifiés du monde entier. Trois mois après, sa silhouette trône toujours au milieu de l'île de la Cité, même si les stigmates du drame se donnent toujours à voir. L'intérieur de l'édifice est quant à lui le théâtre d'un titanesque chantier. L'heure est encore aujourd'hui à la sécurisation de la cathédrale et on estime que la phase de reconstruction proprement dite pourrait commencer au début de l'année 2020. Monseigneur Patrick Chauvet est le recteur de la cathédrale. Il veille avec soin au beau déroulement des travaux. Il évoque cette phase de sécurisation avec nous et revient sur sa mission aujourd'hui.
Il reste encore deux points un peu délicats. Il y avait, vous savez, un échafaudage qu'on avait construit pour restaurer la flèche. Cet échafaudage, à cause de l'incendie, a été soudé. Et donc aujourd'hui, il va falloir essayer de le démonter sans qu'il tombe sur les voûtes restantes. Deuxième point, c'est les charpentes de la voûte qui ne sont pas encore enlevées et qu'il va falloir enlever.
Vous êtes le recteur de Notre-Dame de Paris. Votre mission aujourd'hui, en quoi consiste-t-elle ?
D'abord, une présence. Ça me paraît important que l'État n'oublie pas qu'il y a un affectataire et que l'affectataire, même pendant les travaux, il demeure affectataire. Je suis là pour rappeler que Notre-Dame, c'est le lieu de la cathédrale de l'archevêque de Paris. Et c'est, je crois, important, même si aujourd'hui tout se passe bien, mais vous savez, on parle parfois d'un monument national, on pourrait glisser peut-être vers le musée. Or, Notre-Dame ne sera jamais un musée. Donc, je suis là pour rappeler que Notre-Dame doit demeurer un lieu vivant de célébration, de prière, de louange. On la restaure, elle sera toute belle, mais je pense qu'une église mère doit être toute belle.
Alors, dans ce débat autour de la restauration, il y a ceux qui prônent une reconstruction à l'identique de la cathédrale, d'autres qui voudraient qu'un geste contemporain soit posé. Où vous placez-vous dans ce débat ? Qu'est-ce que vous souhaitez finalement pour Notre-Dame ?
Bien, en tout cas, je dois être quand même le garant de la transmission de la cathédrale. C'est un monument qui date du XIIe. Dieu merci, la structure n'a pas bougé, donc elle est toujours là, et il faudra quand même que l'ensemble de la reconstruction soit dans le cadre du XIIe siècle. On ne va pas faire quelque chose d'étrange sur la cathédrale, comme parfois j'ai vu des projets où on pouvait faire une piscine sur le toit de la cathédrale, ou une promenade avec une forêt sur le toit. Non, ça ne sera pas comme ça. Ce qui est clair, c'est que la charpente sera, je pense, en bois et le toit sera comme à l'identique.
Alors cet incendie a revêtu très vite une dimension spirituelle. Est-ce qu'aujourd'hui, les fidèles, les paroissiens et même les touristes et les pèlerins vous partagent ce que cet incendie a changé en eux, dans leur rapport à la foi, dans leur rapport à l'Église ou même dans leur rapport à Notre-Dame ?
Je pense que ça a réveillé, en tout cas, une dimension affective de la foi et de la prière. Si Bernanos était encore là, eh bien, il dirait à tous les catholiques, eh bien, réveillons-nous. Parce que c'est un signe qu'il y a une braise. Il suffit de souffler sur la braise pour que le feu de l'amour redémarre, si je prends cette image en fonction du drame de la cathédrale, et pour le rendre plus positif. Un événement comme cela a touché vraiment les cœurs, parce que je vois des gens qui sont venus, qui pleurent, qui sont touchés. J'ai reçu énormément de lettres me disant comment leur foi a été, non pas ébranlée, mais voilà, secouée, réveillée.
Et vous, que gardez-vous de cette nuit du 15 avril ?
J'ai appris vraiment ce qu'était l'abandon, la désolation, et j'allais dire le lendemain le désert, puisqu'il n'y avait plus de lieu pour célébrer. Mais c'est vraiment un abandon, une confiance. Alors certes, j'avais confiance dans les travaux des pompiers, mais j'avais confiance dans le Seigneur, en disant, tu ne peux pas nous abandonner, c'est pas possible. En lui disant aussi pourquoi d'ailleurs, parce qu'il y a un lieu qui était si beau, un lieu qui accueillait tant de monde, un lieu de conversion, pourquoi ? J'ai pas eu de réponse pour l'instant, mais j'en aurai peut-être un jour.
Voilà, interrogé par Manuela Affigi, Monseigneur Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, était ce matin l'invité de la rédaction. c'est la fin de cette édition. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité. Retour de l'information en direct de Rome tout à l'heure à 13h. Et en attendant, retrouvez l'information du Vatican, de l'Église et du monde sur notre site internet. Je vous souhaite une très belle journée.